nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Le médecin se dit, une mixture de bonne femme. Je vais tout de même pas m'interposer au curé. Dans les campagnes, la religion est encore très forte. Et elle risque, c'est de me nuire. Moi, je risque, c'est de perdre des clients. Il se contente de dire, bien, très bien, bon. Nous allons la laisser dormir. Après, nous verrons. Peut-être un bon repos. Elle est bien maigre et blanche. Elle est comme ça depuis longtemps. Vous êtes marié depuis combien de temps? Georges Géné lui dit, quelques mois seulement, ça lui dit. Je vous plains, et elle aussi. Vous pouvez la lâcher. Elle est tout à fait calme maintenant. Bon. Nous allons la laisser se reposer. Je reviendrai la voir tout à l'heure. Il n'y a rien à faire pour le moment. Allez. Et il la quitte. Elle se sent de mieux en mieux, se détend. Les fourmis sont parties, les rats aussi. Épuisée, elle s'endort. Fait un rêve blanc. ne voit que du blanc. Puis, petit à petit, elle devient consciente. Le cafard la prend. Elle se sent mal, très mal. C'est terrible cette douleur, ce mal à l'âme. Ce mal de vivre. Elle a envie de mourir, mourir. Mal, mal. Tout lui fait mal. Elle voit en face d'elle une grande lumière blanche et lumineuse. Qui lui pique jusqu'à l'intérieur des yeux, se lève d'un bond, tend les bras vers cette lumière qui lui fait mal et l'attire. Elle a le souffle court, se dit que cette surface lui fait mal. Et que tout va s'arrêter si elle va vers cette lumière. Alors, elle court à la lumière. Court, court. Elle sent comme un bruit intérieur. Et une ombre sur son corps et son visage. Ah ! Elle entre dans la lumière. Et plonge. Ils ont entendu un bruit, un grand bruit. Ils sont sortis du salon. Le docteur et Georges vont dans le parc en courant. Ils voient couché sur le ventre, Ide, au milieu des débris de verre, le médecin se penche, la retourne, elle a le visage et le corps en sang, lui soulève les paupières, lui touche le pouls, elle est encore en vie, vite, il faut la monter à sa chambre, ils la prennent tous les deux pour la monter à sa chambre, elle reste inconsciente. Georges est paniqué, à honte, il se dit que c'est de sa faute. On la couche sur son lit. Le médecin la déshabille et dit des serviettes, de l'eau, de l'alcool, vite. Georges court donner des ordres. Le médecin reste près d'elle. Puis, le médecin l'a lavé, ausculté, l'a mise en chemise de nuit, la mise chemise de nuit propre, des bandages, la poitrine et le front. J'ai fait une piqûre contre la douleur. On a fermé les fenêtres, la fenêtre et les volets. Puis le médecin et Georges sont au salon. Le médecin lui dit, je crains qu'elle soit très mal. La tête a été touchée. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle risque de succomber à ses blessures. Je crains qu'elle lance. Georges est effondré. On ne peut rien faire pour elle, docteur. Le médecin lui dit, malheureusement, non, je suis navré. Georges lui dit, c'est de ma faute. Le médecin lui dit, ne dites rien, je reviendrai plus tard. Et le médecin l'a quitté. Georges est retourné vers Hilde. Elle reste entre la vie et la mort. Ne parle pas, il est effondré. Le médecin, pour la soulager, lui fait une piqûre. Je ne peux rien faire d'autre, malheureusement. Puis, l'après-midi, il fait particulièrement beau, lumineux, elle ouvre les yeux. Elle voit que la regarde Georges. Elle se sent partir, son esprit se fond, elle est très calme. Georges lui demande, les larmes aux yeux, comment te sens-tu? Elle lui dit, bien, je vais mourir, je veux revoir Luc. Il est effondré, se sent coupable. Lui dit, bien, je vais le ramener, merci, mais fais vite, je me meurs. Se lève et sort de la pièce. Son départ a laissé une grande lumière. Elle ne bouge pas, elle attend. Une fois sortie de la pièce, descend les escaliers. Sort du château pour aller à l'écurie. Là, il demande au valet, prépare-moi un cheval, je pars de suite. Thank you. Et un quart d'heure plus tard, il est parti au galop. Je ne sais pas où il va, je ne sais pas où est Luc. Mais il a promis de le ramener. D'un moment, il décide, c'est d'aller voir le frère d'Yves. Peut-être sait-il où il est. Pendant ce temps, Yves repose, confiante, dans son lit. Oui, elle repose, confiante, dans son lit. Après un long trajet, un très long trajet, il arrive chez Franck. Descend de cheval, crie. Franck, Franck, Franck sort de l'écurie et surpris de voir Georges va à lui, lui demande « Que se passe-t-il » Georges lui dit « Un grand malheur, ta soeur est mourante. » Devient tout pâle. Que s'est-il passé? Elle avait une grande mélancolie. Elle s'est jetée par la fenêtre. Maintenant, elle se mord. Où est-elle? La larme aux yeux. Georges lui dit, elle est chez moi. Allons la voir. Georges lui dit, non. Il faut que nous retrouvions Luc. Franck devient tout rouge. Luc? Oui. Elle a demandé. Tu sais où il est? Franck lui dit. Je crois qu'il est dans les marais. Mais pourquoi Luc? Je lui crie. Parce qu'il l'aime. Franck comprend. Dans ses bras le pauvre Georges et lui dit c'est ma faute. Georges lui dit non, c'est la mienne, c'est moi. Franck lui dit non, c'est moi qui l'ai forcé à se marier avec toi. Je savais qu'elle aimait Luc. À cause de ça, elle se meurt. Georges lui dit, c'est moi qui ai fait. Je suis puni. Moi, puis dit, il faut réparer le mal que j'ai fait. Je vais chercher Luc. Et toi, tu retournes chez lui et dis-lui que nous arrivons. Va vite. Georges lui dit, oui. Et il s'en retourne. Une fois arrivé au château, il va à la chambre de sa femme. Lorsqu'elle le voit, elle lui demande « Luc est là ?» Il dit « Non, ton frère est allé le chercher. Ils arrivent. Reste calme. » Il s'approche d'elle, ému. Elle lui dit « Si tu savais, je serai calme lorsque j'aurai Luc. Il est triste. » Lui prend la main, lui dit « Je suis là. » Et lui dit « Luc, où est Luc ?» Il arrive. Georges se dit. Il se dit qu'il est mort. Il demande Luc. Il a l'impression qu'il ne compte pas pour elle. Luc, toujours Luc. Il devient de plus en plus triste. Puis cette tristesse devient de la rancune, j'allais dire de la haine. J'allais dire de la haine si c'était que pour moi. Oui, de la haine. Parce qu'il se dit qu'il a été bluffé, qu'on s'est moqué de lui pour qu'il puisse se marier avec elle malgré qu'elle ne l'aime pas. Lui l'a aimé. Il a passé tous ses caprices à mettre tout ça et le rejette. Et ne pense qu'à son Luc, n'aime que son Luc. Il souffre. Elle se meurt pour un autre. Le temps passe et même il souhaite que Luc ne vienne pas, qu'elle ne le revoie pas, qu'elle meure sans le voir. Serait bien fait pour elle. Oui, maintenant, il aimerait, c'est qu'elle meure de suite pour qu'elle ne le voie pas. Peut-être qu'elle ne le reverra pas. C'est de sa faute. S'il a de la haine pour elle, s'il veut sa mort, et puis lui aussi à sa dignité, on ne pense jamais à lui, personne, ni elle, ni son frère, ni Luc. Lui, c'est celui qui doit tout accepter, sans rien dire, et donner, sans compter. Eh bien non! Il se lève furieux, il va à la fenêtre. Elle demande, tu le vois venir? Il lui dit, non. Luc, viens vite, tu les vois venir? Il lui dit, non, mais je suis là, moi. Elle lui dit, Luc, il souhaite qu'il ne vienne pas, qu'il meure sans qu'elle l'ait vu. Comme ça, il sera vengé. Il ne l'aime plus. Une grande tristesse l'envahit. Il a perdu son amour. Il ne lui reste plus rien. Tout est contre lui. Même Dieu, par l'intermédiaire de ce prêtre qui lui a donné ce poison. Dieu ne l'aime pas. Personne ne l'aime. Il a toujours été seul. Il a même aimé Saul. Luc, il lui dit, il n'est pas là. Il ne viendra peut-être pas. Il est heureux de lui faire du mal. C'est à son tour. Bien souffrir les autres. Elle, c'est une égoïste. Elle ne pense qu'à elle. Elle se tue pour un inconnu, un vagabond, un rien du tout, un dénommé Luc. Son frère, au lieu de la marier, il aurait dû l'enfermer dans une tour du château, ou la tuer, et donner son corps à manger au cochon. Il est tellement furieux qu'il ne pense plus. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Il se dit, et si, peut-être, elle ne se réveille pas. C'est pour qu'elle ne se réveille pas. Je la tuais. Oui, si je la tuais. Il s'approche du lit, est allongé, ne bouge pas. Pendant ce temps, son frère, pris de remords, lui aussi, parcourt le marais. Cette grande étendue, hostile et pleine de recoins, il fait sombre, où il y a des broussailles, du brouillard, d'herbes hautes, la lumière du jour. Traverse pas cette masse touffue que par éclair flèche. Il fait humide et étouffant, le sol est mouvant, ça sent mauvais, la pourriture et les bêtes. On les entend, les sent. Franck fait marcher son cheval au pas, fait très attention, c'est dangereux. Il y a des bêtes étranges qui tuent, qui sucent le sang, des sables mouvants, des insectes qui vous piquent et qui vous empoisonnent, et même des serpents. Il ne voit pas tout ça, mais le sang, c'est sombre, et on peut imaginer n'importe quoi. Une branche d'arbre mort, noire, peut devenir une bête horrible. Même le cheval n'est pas rassuré. N'aime pas ce sol mouvant sous l'herbe. Chevauche pendant des heures. Franck se dit qu'il faut absolument qu'il retrouve Luc. Il le faut, parce que par sa faute, sa sœur est mourante. Il faut qu'il fasse vite, avant qu'elle ne meure. Le jour baisse de plus en plus, on y voit de moins en moins. Il va au hasard. Tout à coup, dresse devant sa monture, ce qui fait renverser de port son cheval. L'autre s'approche. L'autre s'approche, prend la bride au cheval et Franck voit Luc. Franck. Luc est demi-nu, jeune, beau, pieds nus. Luc demande, que fais-tu ici, dans ces marais? Franck lui dit, je suis venu te chercher. Moi? Oui. Franck descend de cheval et lui dit, Hilde est très malade. Il veut te revoir. Hilde, qu'a-t-elle? Elle est chez son mari. Mais qu'a-t-elle? Est-ce mort? Luc devient tout blanc. Franck lui dit, il faut faire vite, partons. Franck monte sur son cheval. Viens, monte. Luc se met derrière lui. Franck lui dit, trouve-moi la sortie de cet endroit diabolique. Et ils mettent le cheval en route. Demande, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Un accident? Je ne sais pas trop. Allons vite, dépêchons-nous, avant qu'il ne soit trop tard. Et il se dirige vers la sortie du marais. C'est difficile, parce qu'on y voit de moins en moins. Pendant ce temps, Georges est toujours dans la chambre d'Hilde. Elle est dans son lit. Elle ne bouge pas. On dirait qu'elle est morte. Georges lâche l'oreiller qui tient à la main et tombe à terre. Il se sent lâche. Lâche. Arrive, il lui dit non. Il va à la fenêtre. Le soir tombe. Il se dit qu'il n'arrivera peut-être pas trop tard. Et lui, que va-t-il devenir? Personne ne pense à lui. Pauvre Georges, personne. Et qui l'a aimé? Personne. Il ne peut pas être aimé. Le temps passe, la pièce assombrit, elle lui dit, il fait nuit, tu le vois? Non, peut-être fait-il trop nuit, Les entends? Non, non, non. Je suis là, Georges. Il a les larmes aux yeux. La nuit est là. On n'y voit rien dehors. Tout à coup, il entend les galops d'un cheval. Il se dit, non. Alors il va vers elle. Il est trop tard. Ils ne viendront pas. Elle lui dit, alors, je vais mourir. Je ne peux plus attendre. Tout à coup, la porte s'est ouverte. Et apparaît Luc et Franck. Vite, ils accourent vers le lit. Le mari est horrifié. Luc se penche vers Hilde. Il lui dit, je suis là. Je suis là. Elle lui dit, Luc, il est trop tard. Il est trop tard. Il a les larmes aux yeux. La prend dans ses bras. Je lui dis, non, non, je suis là. Elle lui dit, c'est bien. La pièce est sombre. Il voit son visage illuminé par la lune. Ses yeux illuminé. La mort il sent se raidir la main, la voit partir. Non, reste. Elle mord dans ses bras. Il pleure. La tient contre son corps. Elle est morte. Franck pleure. Voir Georges qui lui dit, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Il court. Se jeter par la fenêtre. Il est mort sur le coup. Franck est horrifié. Il se dit que c'est sa faute tout ça. Pourquoi a-t-il forcé sa sœur à se marier? Luc a reposé Hilde sur le lit et reste à genoux près du lit. Franck va vers lui. Il met la main sur l'épaule. La nuit tombée, on ne voit que le visage d'Hilde pur et belle. deuxième partie. Tout de suite après, troisième.
Et maintenant, cher public, puisque vous avez été bien sage, la direction du théâtre vous offre 10 minutes d'entraque. Et...
Polichinelle attendra.
Tiens-moi ça, génie.
Elle habitait ces villes, et dans toute la ville, c'était la plus agile
de toutes les gitanas. Il en était plus belle, mais elle avait pour elle une chose exceptionnelle que les autres n'avaient pas, avec son tralala. Elle faisait tourner toutes les têtes d'un coup de tralala. Elle faisait tralala et chacun rêvait d'être dans ses bras. De qui les troublait à l'extrême et le rendait fou de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnettes. Tralala, était si tralala que nulle part y en avait un comme ça.
La clarinette là, lutte de dièse, mon ami, lutte de dièse.
C'est pas écrit.
Donnez. Regardez Léo, une faute de copie.
Ça m'aurait étonné.
Alors on enchaîne ou on n'enchaîne pas?
Mais dépêche-toi, génie, les animaux attendent.
Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait d'être dans ses bras. Ce qui les troublait à l'extrême, et le rendait fou de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnette. Car son petit tralala était si tralala, que nulle part y en avait pas comme ça. Un jour sous les arcades, elle eut une autre toccade, pour Don Pedro l'alcade, à cause de ses gros bras. Dire, toi tu ne mourras pas avec son tralala, son tralala. Aussitôt elle se mit en campagne, d'un coup de tralala, elle a su tralala, et Pedro brusquement s'emballa. Fort aussi d'avouer sa défaite, mes droits reconnus loyalement. Elle avait une arme secrète, avec des effets foudroyants, avec son tralala, petit tralala, elle aurait fait trembler des montagnes, car son petit tralala était si tralala, que Pedro le lendemain l'épousa.
Voilà.
Et on remet ça?
Non, non, ça va comme ça.
Bon, ben je vais laisser.
Troisième partie de Semer le vent. Puis, Franck a fait venir les autorités. On a constaté deux morts accidentelles. Elle est morte d'un arrêt cardiaque et son mari d'un accident. Une mort accidentelle aussi. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.